Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Et on continue aujourd'hui à nous intéresser aux premiers ministres les plus marquants de l'histoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure du Parti travailliste, sans doute la figure la plus importante de l'époque contemporaine. En tout cas, il s'agit de Bob Hawke. Bonjour Romain, c'est vous qu'on retrouve comme d'habitude pour échanger sur l'histoire de l'Australie. Je rappelle, vous êtes historien à l'Australian National University. Bonjour Romain.
Bonjour et surtout une très belle et très heureuse année à tous nos auditeurs pour 2026.
Eh oui, c'est le premier épisode enregistré en cette nouvelle année. Alors Romain, Bob Hawke, c'est à ce jour en tout cas le premier ministre travailliste qui est le plus longtemps resté en poste. Dans notre dernier épisode, on avait dit la même chose de Robert Menzies pour la droite australienne et plus particulièrement pour le parti libéral. Est-ce que Bob Hawke, c'est un peu le Robert Menzies des travaillistes?
C'est une très bonne façon de le présenter. Effectivement, Robert Menzies de la droite du Parti libéral est le premier des premiers ministres australiens en termes de longévité, suivi par un autre premier ministre dont on parlera, également John Howard, et Bob Hawke arrive en 30e. C'est un premier ministre qui a été très, très, à la fois très populaire et surtout qui a su gagner des élections, 4, ce qui est quand même beaucoup. Après, si on le place dans la longue histoire du Parti travailliste australien, on a fait quelques épisodes sur Billy Hughes, qui était un socialiste extrêmement important, Andrew Fisher aussi, John Curtin et Ben Chifley. Donc c'est vrai que sur le point, sur la partie contemporaine, c'est le grand premier ministre de gauche, mais on va dire sur ces 40-50 dernières années. Si on élargit la focale sur la fédération australienne, il est important, mais peut-être pas le plus important côté gauche, par exemple.
Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est une figure très populaire. Il y a une marque de bière qui porte son nom, par exemple. Évidemment, il a été aux manettes dans les années 80, donc c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup plus proche dans l'histoire que les personnes dont on a parlé précédemment, mais son empreinte est encore vraiment très présente. Mais avant d'arriver à cette période, on va plutôt commencer par le début. Donc, ce monsieur Bob Hawke, il est né en 1929 en Australie méridionale. Puis ensuite, il est parti en Australie occidentale pour suivre ses études. Et puis, il y a un événement, un drame personnel qui le frappe assez jeune. En fait, il a un frère aîné qui meurt d'une méningite à l'âge de 17 ans seulement. Et j'ai pu voir ici et là que ce drame va vraiment forger le caractère de Bob Hawke. Ça va aussi beaucoup influencer la façon dont ses parents vont l'éduquer et les attentes qu'ils vont placer en lui. Est-ce que on peut dire, comme j'ai pu le lire ici et là, que c'est ce drame initial, si j'ose dire, qui l'a conduit plusieurs années plus tard à devenir Premier ministre et, comme vous le disiez, l'un des premiers ministres à la plus importante longévité?
Il faudrait rappeler, alors déjà vous l'avez dit, il est né en Australie méridionale, dans la capitale Adélaïde, mais il est né loin, dans la Pampa, à Bordertown, qui est en fait beaucoup plus proche du Victoria que de l'Australie méridionale. Et son papa est, je vais dire prêcheur, mais plutôt pasteur, en fait, si vous voulez, sa maman est enseignante. Et donc, il se trouve là, dans ce coin d'Australie méridionale, pour des raisons liées à leur travail. Et ce que Bob Hawke dira toute sa vie, c'est qu'il a eu la chance de grandir dans un foyer où il a été aimé de ses parents. Ce que je dis paraît évident pour des enfants de 2000, 2010, 2020, mais à l'époque, pouvoir avoir des conversations avec ses parents et être aimé de ses parents, c'est pas donné à tous les enfants. Effectivement, il a un grand frère. Ce grand frère meurt d'une méningite foudroyante, qui est un drame et un désastre pour les parents de Bob Hawke, et ce qui est d'autant plus pour sa maman qui lui reporte double, voire triple son amour et sa protection envers son fils. Bob Hawke, peu de temps après lui-même, a un très, très, très grave accident de moto. Il a failli perdre la vie. Et en fait, c'est cette, cette combinaison d'événements, si vous voulez, dans sa vie d'enfant puis d'adolescent, et surtout ses très grandes capacités scolaires, il pousse à se dire, non seulement j'ai la chance de vivre, je ne suis pas mort, enfin, un peu la survivor's guilt, je ne suis pas mort comme mon grand frère, ou je ne suis pas mort dans un accident où j'aurais pu réellement perdre la vie, je crois qu'il y a quelque chose qui lui a transpercé l'estomac, enfin, quelque chose d'assez grave. Donc, il faut vraiment que je fasse quelque chose de ma vie. Et c'est quelqu'un qui était vraiment passé le clair de son temps au travail, au bénéfice surtout des autres en réalité, parce que voilà, il avait ce sens très important de peut-être d'avoir une mission, quelque chose à accomplir sur Terre. Son papa chrétien évidemment, puisque religieux et pratiquant et enseignant la religion aux autres. Lui s'en est détaché un peu progressivement, mais il est resté imbu de ces certaines idées religieuses vis-à-vis des autres et de comment on doit les traiter.
Et c'est sans doute ce qui explique qu'au final, assez tôt, il va s'engager en politique. Dès 18 ans, il prend sa carte au Parti travailliste. Mais avant de vraiment se lancer en politique, c'est surtout dans les syndicats qui va se faire remarquer assez vite d'ailleurs. Il va très rapidement gravir les échelons et devenir leader syndical.
Oui, absolument. Et ça, il commence très tôt, en réalité. C'est ça qui est intéressant avec Bob Hawke, c'est que représenter les autres, c'est quelque chose qu'il fait dès l'université, où il réussit à se faire élire représentant des élèves, si vous voulez. Et assez tôt, il réalise qu'en fait, il prend beaucoup de plaisir à représenter les autres et à les défendre. Il commence avec des études de droit à l'université d'Australie occidentale à Perth, et il reçoit une Rhodes Scholarship, ce qui est une bourse très importante dans l'Empire britannique, dans l'ancien Empire britannique, et il part faire des études à Oxford. Je me suis toujours posé la question de savoir si ça avait aidé d'avoir son oncle comme Premier, donc Premier ministre de l'État d'Australie occidentale quand il a reçu cette bourse. Peut-être que ça a joué indirectement, mais en tout cas, Bob Hawke est un élève brillant. Très investi en politique étudiante. Quand il revient d'Oxford, et là il opère une petite transition après le droit, il fait un diplôme de lettres, il présente une thèse sur la fixation des salaires. Donc on voit déjà qu'il commence à s'intéresser à l'économie politique et l'économie sociale. Et puis il rentre en Australie où il commence une thèse à mon université, Australian National University. Et assez tôt, via ses directeurs de recherche, on lui propose de devenir un assistant de recherche pour le Conseil des syndicats australiens. Donc au tout début, en fait, il utilise aussi ses études de droit pour défendre les ouvriers. Et vraiment, honnêtement, que ce soit avec les étudiants à l'université ou pour les travailleurs en début de carrière, on voit assez rapidement que ce qui se façonne, c'est une vie ou une carrière là où on peut aider les autres.
Donc vous le dites, voilà, il devient très tôt impliqué dans la vie syndicale et en la matière, il est plutôt doué. C'est un homme assez dur en négociation qui obtient des victoires importantes, notamment des augmentations de salaire, de salaire minimum, etc. Et pourtant, alors là, j'avoue que ça m'a pas mal surpris en essayant de m'intéresser un peu à sa biographie. Il se dit que Bob Hawke aurait été un indique du gouvernement américain dans les années 70 et qu'il aurait utilisé sa position de leader syndical eh bien pour affaiblir certaines luttes, en tout cas des luttes et des actions syndicales qui ciblaient des entreprises américaines établies en Australie. Il aurait aussi un lien dans une histoire de boycott du chanteur Frank Sinatra. Alors ça fait deux histoires en une, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Et peut-être je rebondirai à nouveau sur cette histoire de boycott de Frank Sinatra, parce que ça aussi, ça m'a beaucoup surpris, j'en avais jamais entendu parler. Mais d'abord,
Oui.
indique des États-Unis, agent anti-guerre froide en Australie,
Bon,
qu'en est-il?
je vais reprendre les choses. Donc, comme je l'ai dit, il devient chercheur dans ce syndicat des syndicats, et puis progressivement, il monte les échelons. Il a de gros succès dans les tribunaux d'arbitration, zut, comme on dit, arbitration, arbitration en anglais, où en fait, il s'agit de on appelle ça les prud'hommes en France, de représenter les employés vis-à-vis du patronat. Il commence à se faire connaître dans la presse locale, étatique, puis fédérale. Et progressivement, il monte les échelons de la SCTU, où il en devient le président. C'est quand même une position assez importante dans la mesure où vous avez une vision globale des liens sociaux en séparation en cours ou passé en Australie. Et à ce titre, il devient aussi également très important pour le patronat, évidemment, et les alliés du patronat. C'est quelqu'un qui, quand on lui demandait, parce qu'il était quand même travailliste, s'il était socialiste, il répondait non, moi je suis plutôt social-démocrate. Je crois en la négociation, je crois en la justice, c'est que chacun trouve son compte dans les négociations plutôt que d'imposer une vue marxiste, si vous voulez, de la production, de la redistribution et du travail. Et donc, assez tôt, Bob Hawke, c'est quelqu'un qui parle à tout le monde. Ce que d'ailleurs la gauche de son parti lui a beaucoup reproché. Parce que c'est quelqu'un qui, par nature, est assez ouvert. Si vous voulez, en termes de bonhomie, on pourrait le comparer avec Chirac. C'est quelqu'un qui pouvait se pointer dans un bar et très bien passer, qui pouvait aller au salon d'agriculture locale. Enfin voilà. Alors, bien sûr, le nombre d'affaires qui ont collé au basque de Jacques Chirac n'est pas comparable à celle de Bob. Mais ce que je veux peindre ici, c'est quelqu'un qu'on appelait Bob, Monsieur le Premier ministre, qu'on pouvait approcher très facilement. Et donc, pour beaucoup de monde, Bob Hawke se retrouve aussi à parler aux représentants de l'ambassade américaine à Canberra. Il n'a jamais été rémunéré pour ce travail, enfin, du moins, il n'y a pas d'archives qui documentent ça. En revanche, on savait via les archives américaines qu'effectivement, les entrevues qu'il avait avec les staffs américains, les questions et les réponses qu'il faisait, formaient, si vous voulez, la politique américaine. Mais ça, c'est le jeu d'une ambassade. Est-ce qu'il savait qu'il était utilisé comme ça? Peut-être, probablement, et probablement que ça l'arrangeait parce que ça faisait avancer ses dossiers. Mais, il s'agit pas d'espionnage, si vous voulez. C'est simplement avoir des bonnes relations avec des gens qui peuvent vous aider et que vous aidez en retour. En France, les Américains étaient intéressés, par exemple, vis-à-vis des mouvements sociaux qui pouvaient se préparer parce que l'entreprise Ford, là, le constructeur de voitures, était très, très présent en Australie. Et bien évidemment, dans le secteur de l'automobile, les syndicats sont quand même très puissants et très forts, surtout dans les années 60-70. Donc voilà, ça les intéresse. Pour Sinatra, alors c'est assez rocambolesque comme histoire.
Ouais, alors j'ai vu ça. Sinatra est en tournée en Australie, donc à peu près à cette période, dans les années 70. Il fait des déclarations dans la presse et une grande partie des gens dont Frank Sinatra aurait eu besoin, ne serait-ce que pour se déplacer ou pendant son passage en Australie, décide de boycotter complètement le chanteur. Est-ce que vous pouvez nous replacer un peu dans le contexte et le rôle de Bob Hawke dans tout ça?
Oui, alors bon, Sinatra, grand crooner, éminemment connu, c'est un peu la grande figure qui arrive après s'être mis en retraite et puis reprend le micro, etc. Sinatra arrive en Australie et se plaint de la presse. Et spécifiquement, il insulte ou il compare les journalistes, certaines journalistes femmes qui le harcèlent, à des hookers,
Prostituée.
des espoirs prostitués, quoi, si vous voulez. Et ça passe très, très, très mal. C'est évidemment complètement misogyne. Et disons que M. Sinatra n'a pas évolué avec son temps. Et tollé général en Australie. Et on demande donc au directeur, enfin au chef de la SCTU, Bob Hawke, de prendre position. Et un certain nombre de syndicats disent, bah, écoutez, si Monsieur Sinatra ne s'excuse pas, on va lui rendre la vie impossible. Parce qu'on contrôle les transports, on contrôle les hôtels, on contrôle les avions, on contrôle ceci. Donc en fait, bah, il n'aura pas de repas, il n'aura pas de bagages, il n'aura pas ceci. Et puis sa tournée est terminée. Sinatra refuse de s'excuser parce qu'il se sentait peut-être légitimement harcelé par la presse, comme tout un tas de célébrités. On sait qu'il y en a beaucoup que ça a progressivement tué. Et en fait, Joe est appelé pour faire de la médiation. Et il explique très clairement à Sinatra que bah, S'il ne s'excuse pas, vous pourriez rester dans ce pays indéfiniment. Vous ne serez pas, you won't be allowed to leave Australia unless you can walk on water. Vous ne serez pas autorisé à quitter l'Australie sauf à apprendre à marcher sur l'eau. Bon, alors c'est resté. Et effectivement, Bob Hawke rencontre l'avocat de Sinatra et puis il arrive à une sorte de deal où en fait tous les deux peuvent sortir la tête haute, dans le sens où Sinatra s'excuse pas vraiment, mais Bob Hawke fait quand même comprendre qu'il est désolé de s'être exprimé ainsi. Et puis voilà, ça retombe. Si vous voulez, c'est une histoire un peu, comment dirais-je, plutôt qu'importante. Mais ça veut dire quelque chose de l'Australie de l'époque, non seulement vis-à-vis des progrès accomplis quant aux droits des femmes, et puis sachant que Bob Hawke était un coureur de jupons légendaire, c'était aussi un moyen pour lui de se placer du bon côté de l'histoire, de façon assez politicarde, on va dire. Et puis, ça dit autre chose sur la force des syndicats de l'époque en Australie, où réellement, hein, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais à l'époque, les syndicats australiens pouvaient paralyser le pays, comme ça s'est souvent vu en France dans les années de très grandes grèves.
Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de cet épisode consacré à l'ancien Premier ministre Bob Hawke. On continuera dans cet épisode suivant à voir comment cette personnalité à l'origine issue du monde syndical a pris une place très importante au niveau national qui va finir par lui permettre de s'imposer dans le domaine politique. Merci de nous avoir écoutés et je vous propose donc de nous retrouver dans quelques jours. À bientôt!
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.